ça compte avec Eric Oziel.
Well, I mean, you can always play better. But I mean, when you look at the circumstances that a lot of people don't when they judge you, you know, a guy who hasn't played in a year and was almost could have pretty much retired, came back and had, you know, obviously a knee injury right away, and then came back and, you know, did what I did this year still. I think, you know, I'm pretty happy with that. And I know a lot of guys wouldn't have done as well as I did. And when you look at the circumstances that weren't easy at all, and I had a ton of fun doing it, which was my only thing I wanted to do this year. Everything else on top of that was going to be a bonus. I'm satisfied.
Eric, ça t'a fait réagir cette déclaration-là de Patrick Laine, notamment. Ouais, c'est ça. Ça t'a fait réagir, toi?
Oui. Oui, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Patrick Laine, pour l'homme. Il a fait face à des démons. Puis c'est vrai qu'il est revenu cette année. C'est vrai qu'il n'a pas été une distraction, qu'il n'a pas été semblé. Tu sais, je pense qu'il est en harmonie avec ses coéquipiers. Martin Saint-Louis acceptait les décisions de Martin Saint-Louis. Puis il a raison sur plein de choses qu'il dit. Sauf que pour moi, est-ce qu'on peut dire deux choses? Est-ce qu'on peut dire que Laine a toute mon admiration comme être humain puis ce qu'il a surmonté? Puis est-ce que je peux aussi dire, sans le dénigrer, qu'il n'est pas assez rapide pour aider le Canadien de Montréal en série puis qu'il n'est pas assez rugueux pour aider le Canadien de Montréal en série sans dénigrer l'homme? Tu comprends? Parce que c'est toujours... Tu sais, si on parle de Joel Armia ou Vorak, je ne veux pas le voir revenir parce qu'il n'est pas assez bon, ben il n'y a personne qui va dire « t'es un mou de chien sale ». Mais si on parle de Patrick Laine, à cause des défis qu'il a surmontés, on est tous un peu prudents parce que, de nos jours, les défis de santé mentale, on prend plus ça à la légère, puis on veut être très respectueux parce que personne n'est à l'abri de ça. Puis il a raison. Tu peux pas connaître quelqu'un si t'as pas marché un kilomètre dans ses souliers. Il a tout à fait raison. Ceci étant dit, ce que j'ai vu, ce que je connais de Laine, en tant que joueur de hockey seulement, il patine pas assez vite. Tu comprends? Et si on regarde les matchs des autres séries, t'as besoin de patiner, t'as besoin de papier sablé, il a un lancer hors norme. Il est précis, il est extraordinaire. Pour moi, à mon humble avis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est très bon en saison régulière. C'est pas suffisant en série. Et là est le dilemme face auquel le Canadien de Montréal se retrouve. Fait que, tu sais, oui, Patrick Laine peut nous dire, moi, selon les circonstances, je me suis bien débrouillé, mais tu sais, j'en ai parlé hier avec Georges et Martin. Landeskog a manqué 3 ans et demi, ou presque, il est revenu, puis il bouge ses pieds. C'est pas le même type de joueur. Landeskog bougeait ses pieds avant d'être blessé. Il est revenu, puis lui aussi, les circonstances l'ont pas empêché de patiner au rythme de la Ligue nationale, ce que Patrick Laine ne fait pas ou n'a jamais fait. Fait que c'est mon point de vue. Ceci étant dit, s'il revient l'année prochaine, j'ai aucun problème avec ça, s'il n'est pas une distraction comme il a été cette année. Mais tu sais, il est à risque défensivement, puis dans la saison régulière, on peut se rendre en supplémentaire. Il y a du 3 contre 3, il peut être utile. Il y a des tirs de barrage. Il n'y a pas ça dans les séries. Dans les séries, ben c'est un autre niveau, c'est presque une autre, c'est un autre jeu, complètement.
Mais c'est alors, indéniable voilà cette année, puis j'aime ton opinion nuancée par rapport à Patrick Laine, parce que souvent, quand on lit les commentaires à son endroit, c'est d'un bord ou de l'autre, complètement. Et je pense qu'il faut utiliser beaucoup de nuances pour... Puis oui. Je juge pas ceux qui ont des opinions tranchées là-dessus, c'est bien correct, tout le monde a droit à son opinion. Moi, je vais être plus nuancé, puis j'ai hâte de voir ce que Patrick Laine peut nous amener l'année prochaine. S'il est là, tu sais, je veux dire, il peut toujours avoir des changements, on ne sait pas, mais si toutefois il est là, qu'est-ce que ça peut donner un Patrick Laine en santé qui s'entraîne toute l'entre-saison au complet? Tu sais, qui peut travailler sur des points de son jeu, ce qui... pour des raisons mentales et physiques, si on veut, n'a pas pu faire dans la dernière année, dans les 2 dernières années. Tu comprends?
Donc, Greg Olivier, on parle de Laine Hudson et de son lancer. À 21 ans, il peut peut-être travailler cet été sur son lancer, puis il peut peut-être améliorer son lancer. Patrick Laine, va-t-il améliorer son coup de patin? Où il est rendu dans sa carrière? Puis moi, je reviens là, j'insiste là, que ça soit Laine, je dirais la même chose sur Armia, sur d'autres joueurs, c'est une question de coup de patin. Tu dois patiner. Tu dois patiner, puis tu dois patiner vite. Ou sinon, tu dois patiner pour connaître où sont tes espaces restreints puis les espaces libres, comme Suzuki le fait. Tu comprends? Alors, qui est-ce qu'il est le type de joueur dont on a vraiment besoin avec cette équipe-là aussi? Peut-être que Lainé, dans une autre équipe, pourrait être encore plus utile que Canadiens, là, ils ont beaucoup de choses à adresser dans l'été. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ceci étant dit, il faut lui donner crédit. Oui, il s'est pris en main. Oui, il semblait au bord de la retraite. Puis Patrick Laine est une personnalité qui est complètement différente du joueur de hockey typique. Quand tu l'entends en entrevue, tu vois, tu sais, juste sa déclaration par rapport à son passage du côté avec Columbus. Moi, si j'avais été lui, je me serais peut-être gardé une petite gêne avant de
lui dire. Absolument.
Tu sais, ça montre qu'il est différent, puis c'est correct, puis t'en veux de la différence. C'est important. Fait que on va voir, mais je te le dis, les paroles de Lainé, c'est une chose. Sur la glace, peut-il le faire?
C'est ça.
Je ne le sais pas.
C'est ça. Tu poses c'est une très bonne question, un bon questionnement. Allons vers des équipes maintenant qui veulent absolument garder la fenêtre ouverte, mais est-elle vraiment ouverte, cette fenêtre-là? Puis on peut parler notamment du Lightning de Tampa Bay qui, il y avait plusieurs spéculations un peu partout concernant l'avenir de John Cooper qui sont sorties. Je ne sais pas à quel endroit ça a sorti exactement, mais ça a fini par sortir. Notamment des rumeurs qui pouvaient l'envoyer au Utah Hockey Club, le Mammoth, mm-hmm. peut-être, ouais. Hein, fort probablement. À cause de sa proximité avec le propriétaire Ryan Smith, et finalement va rester avec le Lightning. Et merci d'être le premier à m'en parler, c'est très apprécié. Des Kings de Los Angeles.
Écoute, il y a des fenêtres là, les Kings, je pense pas que la fenêtre est fermée du côté des Kings. Ils ont des bons jeunes joueurs. Byfield est en train de devenir un des joueurs importants dans cette ligue-là. Kempe, on l'a vu.
Kempe, Byfield, Spence, Clark.
Plein de bons joueurs. Kopitar et comme Crosby, ils vont encore avoir une bonne année l'année prochaine. C'est des gars qui sont exceptionnels. Dolly est revenu de sa blessure. Il a été très bon. Il a été très bon au tournoi des Quatre Nations. Dans le cas des Kings, je veux dire, l'organisation doit prendre une part de responsabilité. Comment ça se fait que ça fait 3 années de suite qu'on est sorti par les Oilers Edmonton, puis cette année, on est encore sorti par les Oilers Edmonton? Tu dois regarder dans le miroir, dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait qui fait en sorte qu'on est au même résultat qu'il y a 4 ans. Est-ce que la responsabilité revient à Blake? Est-ce que c'est le bon instructeur? Manque-t-il un joueur? Y a-t-il, tu sais, je sais pas c'est quoi, je n'ai pas la réponse. J'ai été les voir, tu le sais, j'ai été les voir les Kings cette année à Los Angeles. C'est une merveilleuse équipe à domicile. Ils naissent 2-0. Comment ça se fait qu'ils l'ont échappé? Et c'est pas pour enlever du crédit aux Oilers d'Edmonton. Ils ont fait les ajustements.
Même Draisaitl en a parlé cette semaine, puis j'en ai parlé dans le club du matin, il était pas d'accord avec moi. Ils ont regardé les matchs. Je dis pas que les gars ont pas raison, ma vision, ils ont arrêté de jouer en troisième. Jim Hiller leur a dit de se replier, puis au lieu de jouer pour gagner, on a joué pour pas perdre avec un avance dans les deux cas. T'es en avance dans le match 3, t'es en avance dans le match 4, et tu fais caca dans le mythe comme ça, je veux dire, c'est impossible. Même Draisaitl dit, ben écoute, they fall back. Il recule. Pourquoi tu fais ça? Ton système de jeu fonctionne, t'as les Oilers dans les câbles. C'est Jim Hiller qui a perdu cette série-là. À lui seul. Puis quand on lui a posé la question, Eric, il était baveux avec les journalistes. Ah, c'est ta question préférée, hein? Ça, me parler de la troisième période. Ben oui, c'est ma question préférée. Peux-tu me répondre, s'il te plaît?
Hey, man, des questions auxquelles tu dois répondre, tu peux pas être baveux, tu comprends? Parce que chacun a son travail à faire. Alors, il y aura des questions à ce côté-là. Puis du côté de Tampa Bay, on aime beaucoup Julien Brisebois, on aime beaucoup Mathieu Darche. Ils ont gagné depuis 2022, quand ils ont perdu en finale à Costa Rica contre l'Avalanche, ils ont gagné 2 matchs à domicile sur 14.
C'est fou de penser à ça, là.
Puis Kucherov a eu une année extraordinaire, encore une fois. Ils ont pointe.
Mais pas en série. Pas en série, coach, je pense.
Non, en effet, pas du tout.
Je te parle à saison régulière. Donc, il est encore capable, tu comprends? Puis lui, Kucherov, il joue de la même façon en série qu'en en saison régulière. Tu comprends, il ne changera pas son style. Fait que du côté de Tampa Bay, tous leurs bons joueurs sont sous contrat, il n'y a aucun problème. Puis, mais ils sont limités au niveau de leur espace à la masse salariale. Je sais pas, il y a Gourde qui reviendra peut-être pas parce que lui est en fin de contrat, mais je veux dire, sinon, les autres joueurs sont tous signés. Ils ont plusieurs joueurs qui ont été au tournoi des Quatre Nations. Ils ont du talent. Mais comme Vasilevski l'a dit, c'est inquiétant et c'est très inquiétant. Est-ce que la fenêtre est en train de se fermer du côté du Lightning de Tampa Bay?
Ben, tu sais, c'est quoi tes choix de premier tour? Ah, c'est vrai, t'es tout échangé ouais, aussi.
La relève est mince. Le choix de premier tour en 2022 à Isaac Howard, qui vient de gagner le trophée du meilleur joueur universitaire en collégial américain, le Hobie Baker, semble qu'il ne s'entendra pas avec le Lightning, ne veut pas jouer pour eux, donc va devenir un agent libre. Ils vont obtenir un choix compensatoire, je pense que c'est un choix de deuxième ronde. Donc, c'est un ailier gauche, bon marqueur. Mais tu sais, est-ce que c'est plus profond que ça? Sergachev leur manque. Ouais. Edmund est bon, McDonough est bon, mais il manque quelque chose avec cette équipe-là pour aller passer la prochaine étape.
Ouais, et ça, là, d'ailleurs, on va revenir sur ce cas-là peut-être demain, mais un autre joueur de la NCAA qui décide de son avenir, où est-ce qu'il va aller jouer?
Ouais, c'est vraiment un double standard.
Il y a quelque chose qu'il va falloir travailler. La prochaine convention collective s'en vient. Là, il y a vraiment quelque chose qui va devoir arriver avec ça. Mais je veux vraiment qu'on laisse la place parce qu'on en a parlé d'entrée de jeu. Greg Popovich, entraîneur légendaire dans la NBA, qui a peut-être pavé la voie dans plusieurs autres sports à des entraîneurs pédagogues. Qu'on voit aujourd'hui dans la Ligue nationale. Puis toi, tu fais un lien notamment avec Carberry et Martin Saint-Louis.
Oui. Oui. Moi, Greg Popovich, c'est un gars que j'ai admiré beaucoup parce que c'était plus qu'un entraîneur. C'était un meneur d'hommes. C'est un gars qui vient, son profil, c'est un gars qui a été dans l'armée américaine, dans les forces fortes de l'air. Ensuite, il a été dans des petits collèges, travaillé comme instructeur. Il a été assistant pour des grands entraîneurs. C'est un gars qui a coaché les grandes équipes des Spurs de San Antonio. Où est sa place dans l'échiquier des meilleurs entraîneurs de tous les temps de la Ligue, de la NBA? Phil Jackson, Pat Riley. Tu sais, c'est un gars qui est là-dedans dans cette discussion-là. C'est un gars qui a toujours mis l'homme avant l'athlète et qui a toujours mis l'équipe avant le joueur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un gars qui a toujours enseigné, qui a été avant-gardiste et un des premiers qui a décidé d'amener des joueurs européens et de jouer selon leur style. Une petite anecdote. Popovich, ça fait des années qu'il organise des repas d'équipe sur la route. Tu sais, les joueurs vont aller souper en équipe. Lui, il les invite et il leur fait, avant chaque repas commence, chacun son verre. Si tu bois du vin, c'est du vin, de la bière ou de l'eau. Et il doit porter un toast. Tout le monde porte un toast à Tim Duncan parce qu'il donne crédit à Tim Duncan pour ses 5 championnats de la NBA. Alors, c'est un gars qui est humble, c'est un gars qui est simple, c'est un meneur d'hommes extraordinaire. En 2012, il était furieux que la Ligue avait placé, lors d'un voyage de 6 parties sur la route, 4 parties en 5 jours. La 4e partie est une partie télévisée sur le réseau national contre le Heat de Miami et LeBron James. Il était tellement furieux qu'il a pris 4 de ses partants, il les a envoyés à la maison, ils ont joué avec des réservistes. Ils ont été mis à l'amende de 250 000 $ et depuis ce temps-là, la NBA ne place plus 4 parties en 5 matchs. Fait qu'il a prouvé son point. Ils ont failli gagner ce match-là et c'est depuis ce temps-là, 2012, que là, il s'est établi ce qu'on appelle en anglais load management, la gestion du temps de jeu où des fois, on permet à certains joueurs de manquer des matchs pour arriver frais et dispo en série. Fait que c'est un gars qui a eu un impact très important, mais je reviens là-dessus. C'est un meneur d'hommes qui était capable de parler avec ses joueurs de autre chose que de la game. Et ça, c'est des Martin Saint-Louis, c'est des Carberry, c'est des gars humains. C'est la nouvelle génération d'entraîneurs, mais lui, déjà, dans la fin des années 90, il en était un. Pas toujours facile avec les médias. Il pouvait être très acerbe. Mais avec ses joueurs, les gars jouaient pour lui. Fait que chapeau à ce gars-là. Il se quitte un petit peu par la force des choses parce qu'il a eu un souci de santé, mais il va devenir président de l'équipe. On a besoin de plus de Popovich, qui est un gars aussi, je termine avec ça, qui s'est toujours ajusté à ses joueurs. Quand il y avait une équipe qui était très forte offensivement, c'était le stratégie, c'était offensif. Puis quand il y avait une équipe qui était plus forte défensivement, il était capable de jouer défensif. Alors qu'un gars comme Tortorella ne s'ajuste pas. Tu joues selon ma philosophie. Lui, Popovich, c'était « OK, Quels sont les joueurs que j'ai avec moi sur le banc? Je vais m'ajuster à leur philosophie, à leur talent.
29 saisons avec les Spurs, d'ailleurs, tu l'as bien dit, et j'ai eu un petit blanc avant que tu l'introduis. Je remercie notamment Matt de me ramener à l'ordre, mais effectivement, c'est écoute, j'ai hâte, j'imagine qu'il y a un livre qui va sortir à un moment donné.
Ça... Non, parce que c'est intéressant ce que tu dis là.
Il y a quelqu'un qui va écrire ça, Eric.
Il affirme, jamais je vais écrire un livre, parce que le crédit revient aux joueurs, alors que Bill Belichick est en train de ruiner son héritage avec ce fameux livre qui est en train de sortir. T'es en train de devenir la catastrophe du côté du programme des Tar Heels de l'Université de la Caroline du Nord. Popovich, c'est pas le même style de gars.
Et ça, c'est toute une saga, Bill Belichick. Peut-être qu'on pourra en parler demain, là.
Ah, mon
Mais c'est avec sa nouvelle copine, c'est tellement bizarre ce qui se passe.
La fameuse entrevue qu'il a donnée à la télévision, là.
Puis là, il y a plein de rapports qui sortent sur l'implication de cette madame-là dans le programme. C'est juste weird. Il n'y a pas d'autre façon de décrire la situation.
Il a promis d'être la 33e équipe de la Ligue nationale de football. C'est une image. Et le recrutement va pas bien. Il a perdu son meilleur joueur défensif pour le transfert. Il est allé chercher un carrière d'une université moins prestigieuse. C'était un petit peu chaotique du côté de ce programme-là. Et là, les preneurs au livre, c'est over-under. C'est under un an et demi avant qu'il soit congédié.
Wow.
Tu sais, Eric, des fois, là, il y a une fameuse citation dans le film Batman The Dark Knight en 2008. Qui est dite par Harvey Dent dans le film. You either die the hero or you live long enough to see yourself become the villain.
Ouais.
Alors, soit tu meurs en héros ou tu vis assez longtemps pour devenir le vilain. On se demandait quand l'ère Tom Brady Belichick avait été là, cette dynastie, on se disait Tom Brady a joué pendant une vingtaine de saisons sous le meilleur entraîneur. Le plus grand génie de football que la Terre n'a pas porté. Mais finalement, peut-être que Belichick aurait dû se retirer après l'ère Mac Jones et dire, comprends-tu ce que je veux dire? Voilà l'héritage que je laisse au football américain. Et là, veut continuer, s'accroche encore, lui qui a la 70 ans avancée. Peut-être qu'il aurait dû arrêter là.
Ben, en tout cas, il est. On peut en parler là, demain parce que c'est complexe. Je veux dire, on ne nous a pas habitués à se faire contrôler comme ça par sa copine qui semble vraiment là maintenant elle va être en copier sur tous les courriels. Elle prend des décisions. C'est vraiment particulier. Là, il ne nous a pas habitués à ça, alors que c'est un gars qui aime beaucoup contrôler. Fait que à suivre.
On suit ça, Eric. On te souhaite un très, très beau samedi.